J'ai été convaincu de continuer un partage que j'ai commencé avec vous, que je n'ai pas fini, et peut-être qu'on pourrait ce soir arriver un petit peu plus, un peu plus loin dans ce message. Et je vous encourage, si vous n'étiez pas là dimanche matin, je vous encourage à écouter le message dimanche matin, qui est vraiment en corrélation avec ce que l'on va partager encore ce soir. Je pense que c'est une pensée forte que le Seigneur veut pour nous, pour son Église. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup encouragé à aller encore plus loin sur ce thème. Alors, ce thème, j'ai trouvé le titre dans un verset de la parole que je vous recite. « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Et c'est le titre de ce thème. « La grâce du Seigneur dure toute la vie. » Je vous ai cité le psaume 30, verset 6. Alors j'avais découpé ce message un peu en trois parties. Et j'avais dit que il y avait des domaines dans notre vie où il paraissait assez évident de dépendre de la grâce de Dieu. Et ça, c'était la première partie que nous avions évoquée. Je pensais particulièrement au salut de notre âme, la première expérience lorsque, devant la croix, on prend cette image des fois, vous savez, de lorsqu'on réalise son péché, lorsque la conversion, la véritable repentance, elle est là dans nos vies, c'est un peu comme si on est en train de se noyer. On a l'impression que la montagne de nos péchés va complètement nous anéantir. Et puis on cherche une bouée. Et la croix a été cette bouée pour nous. Et je pense que c'est un domaine de notre vie où nous avons su, en tout cas, par la grâce de Dieu, dépendre totalement de la grâce de Dieu pour le salut de notre âme. J'avais cité un autre domaine aussi de notre vie spirituelle, où il semble encore assez évident de dépendre de la grâce de Dieu, ce sont les épreuves de la vie. Combien d'hommes et de femmes sont venus, sont même revenus vers le Seigneur? Combien plusieurs ont parfois retrouvé le numéro de téléphone du pasteur, quand dans certaines situations de leur vie, il n'y avait plus aucun autre moyen que de secourir, d'appeler au secours à l'Éternel. Et c'est vrai que dans ces temps particuliers de nos vies, et beaucoup d'hommes et de femmes se sont approchés du Seigneur dans ces temps d'épreuves de leur vie, quelles que soient ces épreuves, il nous semble à un moment donné évident, quand nous avons plus de ressources, de crier à Dieu, et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Alors ça, c'était un peu la première partie des domaines un peu assez évidents où nous dépendons de la grâce de Dieu. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des domaines un peu moins évidents. Et pourtant, et c'est vraiment le thème central de ce message, pourtant, du premier jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur, jusqu'au dernier, dans tous les domaines de notre vie, nous devons dépendre de la grâce de Dieu. Plus nous avançons, plus nous réalisons qu'en définitive, tout est grâce. Mais chemin faisant, comme cela a été rappelé dimanche matin, pour certaines raisons, parfois, nous dévions de l'évangile de la grâce. Alors, j'avais pris dans une deuxième partie deux domaines un peu moins évidents. J'avais parlé de la sanctification, par exemple. La sanctification, c'est un domaine déjà où, eh bien, on utilise un peu plus nos propres efforts, un peu plus la dimension charnelle de nos propres force pour arriver à cet objectif de la sanctification dans nos vies. Et nous avons rappelé qu'il ne faut jamais oublier que Jésus a été fait sur la croix pour nous justice, mais il a été aussi fait sanctification, et c'est lui qui accomplit pleinement cette œuvre dans nos vies. Alors j'y reviens pas plus, mais il y a plusieurs versets, je pourrais vous citer par exemple ce verset où il est écrit ceci, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà des versets que nous avions partagés. Un autre domaine où il paraît aussi un peu moins évident de dépendre de la grâce de Dieu, et pourtant, où nous devons le faire, c'est dans le service, dans l'Église. Là aussi, on y met un peu plus de l'humain. Alors j'avais expliqué, j'y reviendrai peut-être, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais il est question de l'équilibre. Nous zoomons bien sûr sur la faveur, la bonté, la grâce de Dieu, mais n'oublions pas tous les efforts que nous avons à faire. Je parlais du salut tout à l'heure, mais si on ne le saisit pas, s'il n'y a pas cet acte de foi, il y a toujours cet équilibre entre la part de l'homme. Mais ce que nous essayons de partager sur ce thème-là, c'est de ne pas empiéter sur le domaine réservé à Dieu, et de toujours, peut-être dans cet esprit d'humilité, comme nous en parlait Michael tout à l'heure, toujours réaliser que nous sommes totalement dépendants de la faveur et de la bonté de Dieu. Alors il y a ce domaine du service, l'apôtre Paul a pu dire lui-même, « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Que tout ce que nous pourrons faire pour la gloire du Seigneur, c'est merveilleux quand le Seigneur nous utilise entre ses mains, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Mais parfois, nous, peut-être pris par les événements, par les labeurs, nous oublions peut-être l'essentiel. Et pour être peut-être mis à l'abri de toute forme d'orgueil, de suffisance humaine qui peuvent arriver insidieusement dans notre vie, nous devons constamment garder à l'esprit que si nous pouvons le servir, c'est un effet de sa grâce, et c'est par sa grâce que nous pouvons le faire aussi. Ma grâce dure toute la vie, pas juste le jour de notre conversion, pas juste à quelques épisodes particuliers de ma vie, mais à chaque instant, j'ai besoin de dépendre de la grâce de Dieu. Donc j'ai dit des domaines assez évidents, des domaines moins évidents, et puis on a attaqué la dernière fois des domaines beaucoup moins évidents. Et où là, nous devons être attentifs parce que l'éloignement du projet de Dieu pour nous peut être parfois considérable. Alors nous avions partagé ce premier domaine beaucoup moins évident, c'est croire que le pardon est toujours possible. Et nous avions rappelé que le chrétien peut chuter, le chrétien peut pécher, le chrétien peut tomber. Peut-être pas une seule fois, deux fois, trois fois. Et parce que nous l'avons vu parfois dans ce conseil pastoral, chaque fois que nous avons été amenés à soutenir des hommes et des femmes dans leur lutte et dans leur combat, nous avons été amenés à considérer qu'il n'était pas forcément évident de dépendre de la grâce de Dieu à chaque épisode de notre vie comme nous avons pu le faire le premier jour. Dimanche matin, notre pasteur nous rappelait l'expérience de David. David a reçu ce pardon complet malgré cette faute qu'il avait faite dans sa vie, dans le cas de l'adultère avec Bathsheba. Et notre pasteur nous a rappelé que s'il a pu recevoir ce pardon, s'il a pu retrouver cette vie et cette communion avec Dieu, c'est parce qu'il était dépendant, il vivait dans ce qu'il disait dans ce psaume, « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours », il vivait véritablement dans la grâce de Dieu. Et malheureusement, parfois dans certaines situations, parce que on est peut-être empêtré par nos responsabilités, pour diverses raisons que j'avais évoquées la dernière fois, il est parfois difficile de dépendre de la grâce de Dieu quand on a chuté. Et c'est important pour nous de se rappeler que dans ces situations-là, au lieu de nous éloigner de plus en plus du Seigneur, nous pouvons crier à lui et dépendre de sa grâce comme au premier jour. Il ne se lasse pas de pardonner, dit l'Écriture. Ce n'est pas un encouragement à pécher ou à chuter. C'est de réaliser que même si nous sommes, c'est la Bible qui le dit, que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est de reconnaître en fait nos faiblesses, nos difficultés. Et il est écrit ceci, « Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Alors, nous avions cité ce domaine particulier de croire que le pardon est toujours possible. Et je voudrais que, quelle que soit la situation qu'on puisse traverser dans notre vie, nous puissions toujours, toujours dépendre de la grâce de Dieu. Ma grâce dure toute la vie. Amen. On avait cité aussi la dernière fois cet autre domaine encore moins évident. C'est le domaine de la ressemblance à Christ. Chacun d'entre nous, nous savons ceux qui prêchent nous le rabâchent, et c'est normal parce que c'est le thème central de l'Évangile. Nous devons marcher à la suite du Seigneur. Un des grands mobiles de la venue de Christ sur la terre des hommes, c'est de donner sa vie, bien sûr, mais c'est aussi de nous montrer qu'il était possible, par l'action du Saint-Esprit, de marcher comme lui-même a marché. Il a été comme un modèle, un exemple. Alors tout cela, petit à petit, quand on connaît le Seigneur, on le sait, on le lit, on l'entend, on nous le fait comprendre, si jamais. Et là, il n'y a que deux choix. Soit je vis la vie de Christ, soit je dépends totalement de la grâce de Dieu, soit je laisse le Saint-Esprit véritablement œuvrer dans ma vie. Et petit à petit, je deviens semblable, il y a cette transformation dans ma vie. Soit, si je regarde plus à mes propres forces, à mes propres résolutions, eh bien, nous risquons de créer une vie chrétienne de façade. Nous savons ce que le Seigneur attend de nous. Nous savons ce que les autres attendent de nous. Et il peut y avoir parfois une certaine simulation, comme un rôle que nous serions amenés à tenir dans l'Église. Et là, c'est un danger, un éloignement souvent vécu dans l'Église, le thème de ressembler à Christ. Et là, nous devons impérativement zoomer sur l'importance de l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Regardez les apôtres, le jour de la Pentecôte, comment ils ont été changés et transformés. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qui peut faire cela. Nous avions lu ce texte, je vais le reciter, ne le cherchez pas. « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce n'est pas nous qui nous transformons. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui nous transforme progressivement dans ce temps où nous contemplons la gloire du Seigneur, notamment comme un miroir au travers de la parole. Et plus je laisse le Seigneur envahir ma vie, le Saint-Esprit, plus finalement ce fruit de l'Esprit, tel que l'apôtre en parle dans le livre de Paul aux Galates, eh bien se manifeste dans ma vie. Soit je choisis de le faire par moi-même et on est capable de prendre quand même des résolutions fortes. Il y a des gens qui vivent avec des vies morales exemplaires. On est capable de faire beaucoup de certaines choses, mais ce n'est pas la transformation de l'Esprit du Seigneur dans nos cœurs. Alors, j'avais cité aussi ce dernier verset, on va peut-être le lire ensemble. Dans Jean au chapitre 15, on avait terminé par ce verset. Jean 15, verset 4. Dépendre de la grâce de Dieu pour ressembler au Seigneur, c'est en définitive, eh bien, réaliser que c'est Jésus qui vit en nous, c'est lui qui nous donne la force nécessaire pour changer, pour être transformé. Vous savez, nous n'avons qu'une force humaine digne de ce nom dans nous pour arriver à ce but. Mais en tout cas, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, il peut le faire en nous. Jésus a dit ceci, Jean 15, verset 4. Je vais prendre la même version que vous, ça sera plus simple. Jean 15, 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ma grâce, dit le Seigneur, elle dure toute la vie. C'est cette parole aussi que je cite de l'apôtre Paul. C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois en vous à la fois le vouloir et le faire. C'est lui qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour dans Philippiens chapitre 2 et verset 13. Je voudrais maintenant aborder un troisième domaine où il est aussi pas très évident de dépendre de la grâce de Dieu. Après avoir parlé que croire le pardon est toujours possible et ressembler à Christ, je voudrais parler de ce domaine très particulier d'obéir au commandement divin. Nous voyons très clairement, notamment dans le livre de l'apôtre Paul aux Galates, qu'un des drames de la vie chrétienne, c'est de mal comprendre et de mal vivre la relation que nous avons avec les commandements de Dieu. C'est certainement un des domaines où nous employons le plus la dimension charnelle, alors que c'est certainement un des domaines où nous devons en dépendre de plus en plus de la grâce de Dieu. Nous l'avons lu, « Sans moi, a dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. » Et il est absolument fondamental, face au commandement du Seigneur dans la parole, de réaliser que l'obéissance n'est jamais la cause de la faveur de Dieu. Notre obéissance n'est jamais la cause de la faveur de Dieu, mais elle en est plutôt la conséquence. Ce n'est pas parce que je m'applique à obéir, je ne dis pas que nous ne devons pas nous appliquer à obéir. Je dis que ce n'est pas parce que je m'applique à obéir à une exigence du Seigneur que j'obtiens sa faveur. Mais c'est parce que je suis admis en sa présence, c'est parce que j'ai vraiment réalisé la grâce que j'ai et l'assurance que je peux avoir de m'approcher du trône de la grâce, comme cela nous a été rappelé dimanche, c'est parce que je suis admis en sa présence, c'est parce que je suis au bénéfice de sa grâce qu'il me plaît de lui obéir, qu'il me plaît de lui plaire, comme cela a été rappelé dimanche matin. Pourquoi je dis que c'est un des domaines où nous employons le plus souvent la dimension charnelle? Comme cela a été rappelé dimanche dans cette histoire du centenier qui était venu pour son serviteur qui était malade, c'est que nous ne sommes pas loin parfois de cultiver ce qu'on pourrait appeler la religion du mérite. Nous faisons, et Dieu soit béni pour tout ce que nous accomplissons. Et chaque fois que la vie de Christ en nous nous permet d'obéir et d'accomplir les commandements de Dieu dans notre vie, mais que Dieu nous garde d'en faire une part de mérite pour nous approcher du Seigneur différemment de ce que nous faisions auparavant. Il y a un verset qui pourrait être mal compris à ce sujet. Jésus a dit ceci, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande » dans Jean 15 et verset 14. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que nous prouvons par notre attitude, par nos choix, par nos comportements, nous prouvons que nous faisons partie de son cercle d'amitié en faisant ce qui lui plaît, parce que nous l'aimons. Et c'est en définitive, c'est pour ça que j'ai voulu relire Jean chapitre 15, vous savez cette formidable image du cep et du sarment, c'est tout le sens du fruit du sarment qui est totalement cohérent en fait à l'attachement au cep. Jacques dit, un figuier, mes frères, peut-il porter des olives? Une vigne peut-elle porter des figues? Dans notre attachement au cep, ce qui va se dégager, le fruit de notre vie, la vie de Christ qui coule en nous, va être cette obéissance, cette joie, ce bonheur de plaire au Seigneur. Je crois, je le dis à cet endroit du message, que nous avons fait beaucoup d'erreurs en insistant trop sur les nouveau-nés spirituels, en mettant en avant ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils ne devaient pas faire, sans prendre en considération que la vie de Christ avait besoin de temps pour se développer pleinement en eux. On en a peut-être plus facilement conscience pour nous, voilà, il faut que le Seigneur y prenne son temps. Et parfois, on a inversé les choses. Nous avons peut-être découragé certains, peut-être même parfois stoppé la croissance pour d'autres, et nous devons être vigilants et attentifs. Et c'est un des domaines de l'obéissance au commandement divin où nous devons comprendre véritablement la part qui est la nôtre et aussi la dépendance à la grâce de Dieu. Alors je ne dis pas que l'observation de la loi de Dieu ne soit pas importante. Bien au contraire. Mais je veux vous montrer qu'une fois de plus, sur ce thème principal de dépendre de la grâce de Dieu, nous avons besoin de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Nous avons besoin de lui constamment pour accomplir les volontés de notre Père. Et il suffit, j'en parle pas ce soir, mais de voir la dépendance que Jésus lui-même avait quand il était sur la terre pour accomplir les volontés de son Père pour rentrer sur ce chemin de l'obéissance. Et peut-être qu'il serait important à ce moment du message de reparler du rapport entre la loi, le rapport entre la loi et la grâce. Certains pensent que la loi, c'est que pour l'ancienne alliance et que la grâce, c'est pour la nouvelle alliance. Il y a parfois dans la compréhension des Écritures, chez certains, une certaine opposition entre la loi et la grâce. On pourrait peut-être le croire sur la base d'un verset comme celui que je vais vous citer. Il est écrit ceci, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dans Jean, chapitre 1, verset 17. Mais c'est une analyse très réductrice, et certains le font à bon escient, bien sûr, pour peut-être s'arranger de certaines situations, de prétendre que par la venue de la grâce, la loi, elle est complètement abolie. Mais l'apôtre Paul est formel, il dit ceci, « Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Nous confirmons la loi dans Romains chapitre 3, verset 31. Ce rapport entre la grâce et la loi est parfois compliqué. Et je bénis le Seigneur pour cette épître aux Romains qui est vraiment importante sur les bases de la vie chrétienne, pour que nous puissions comprendre eh bien, la part de l'un, la part de l'autre. La question que l'apôtre Paul développe dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Romains, c'est faut-il pour ceux qui sont sauvés par la foi qu'ils reviennent à la loi ? Et comme je disais tout à l'heure, on voit énormément de ces situations dans l'Épître de Paul aux Galates. La loi, nous devons comprendre que la loi, elle est et elle reste bonne. Elle n'est pas supprimée dans la Nouvelle Alliance, au contraire. Elle est accomplie, dit l'apôtre Paul. Au contraire, nous confirmons la loi. Qu'a dit Jésus ? Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17, et bien sûr que nous nous rappelons les paroles de Jésus à la croix du calvaire lorsqu'il dit, tout est accompli. Nous devons comprendre qu'en définitive, la loi est confirmée par la justification, par la foi. La loi que Dieu avait donnée par Moïse, elle est confirmée par la justification, par la foi. Et qu'est-ce que cela veut dire tout simplement pour nous ? Quel est le rapport avec la grâce ? Eh bien, c'est que, en définitive, comme Christ a accompli la loi, celui qui vit dans la foi en Christ, eh bien, il vit une vie conforme à la loi. C'est cela que cela veut dire. Et il faut faire attention à tout ce qui est légalisme. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, sans que la vie de Christ, qui est le fondement justement, puisque c'est pas nous qui aurions pu accomplir la loi, mais lui, il l'a fait, il est venu pour cela. Et en Christ, nous pouvons véritablement marcher sur le chemin de l'obéissance au commandement divin. La foi, la grâce, elle change le cœur de l'homme, elle le transforme. Et la loi, elle est inscrite non plus sur des tables de pierre, elle est inscrite dans le cœur de chacun. La grâce, elle va nous donner la force de mettre en pratique la loi, selon ce que d'ailleurs l'Éternel avait annoncé au peuple d'Israël par la bouche du prophète Jérémie. Et là, je voudrais qu'on les lise ensemble, Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Alors, on va lire juste ces quelques versets dans le chapitre 33 pour voir qu'il y avait cette prophétie que Dieu annonce, eh bien, offrir à tous sa justice par le moyen de la foi en Jésus-Christ. « Voici les jours viennent, Jérémie 33, 14, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda en ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. » Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Dieu promet, Dieu annonce d'offrir sa justice à lui par le moyen de Jésus-Christ. Et regardez au chapitre 31, Jérémie 31, verset 31. C'est là qu'il y a cette notion de loi qui est inscrite dans le cœur des croyants. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Vous voyez la relation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. « Non comme l'ancienne que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Et là, il y a l'annonce effectivement de cette loi qui est inscrite dans le cœur. Et c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'obéissance, au commandement de Dieu, c'est que c'est là aussi une dépendance totale à la grâce de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur dans chacune de nos vies, par l'action du Saint-Esprit. Regardez un peu plus loin dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Il le fait, c'est l'initiative du Seigneur. Ce n'est que dans la mesure où Christ vit en moi que je suis rendu capable d'obéir à ses préceptes. Pourquoi ? Parce que Christ a tout accompli, parce que la loi a été pleinement accomplie en Jésus-Christ. Vous savez, ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas que nous ayons l'intention de lui obéir. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que nous obéissions tout simplement, que ce soit quelque chose d'actif dans notre cœur. Il y a cette fameuse parabole, vous savez, des deux fils, que le Seigneur, eh bien, vous savez, il y en a un qui dit, j'irai pas, et puis il va dans la vigne travailler. L'autre, il dit, j'irai, et puis il y va pas. Et le Seigneur dit ceci, lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent le premier, c'est-à-dire celui qui avait dit « j'irai pas » et qui est allé. Et Jésus leur dit « je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas l'intention qui compte dans l'obéissance au commandement, mais c'est des actes d'obéissance, des actes vrais et sincère dans notre vie. Nous avons très sérieusement besoin de dépendre de la grâce de Dieu, car qui peut être à la hauteur? Qui peut honnêtement et avec peut-être humilité réaliser que nous pourrions, par nous-mêmes, accomplir les commandements du Seigneur? Nous avons besoin de dépendre de sa grâce. Je voudrais peut-être, puisqu'on parle de commandements, et puis terminer par cette dernière, ce dernier domaine où nous devons, où c'est peut-être encore aussi pas trop évident de dépendre de la grâce de Dieu, mais où pourtant, nous allons le voir très rapidement, nous devons dépendre. On va regarder dans Jean au chapitre 13, puisqu'on vient de parler des commandements, eh bien pourquoi ne pas lire, j'allais dire, le grand commandement, en tout cas, un commandement parmi les autres, mais essentiel, et dans Jean chapitre 13, verset 34, vous savez, quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau », peut-être vous l'avez jamais lu, si ? Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Voilà un autre domaine où il n'est parfois pas très très évident de dépendre totalement de la grâce de Dieu. C'est dans le domaine de nous aimer les uns les autres. Vous savez, nous vivons dans un monde qui nous apprend à nous préoccuper plutôt de notre vie personnelle. On est dans un monde très individualisé, où finalement le bien-être de l'individu prime au-dessus de toutes les autres considérations. Vous savez, il y a eu des générations où c'est le collectif qui primait. L'individu était plus ou moins considéré. On a beaucoup basculé. Aujourd'hui, c'est l'individu. Et le collectif, c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu de côté. Il y a des choses même parfois simples, comme le respect, qui s'est beaucoup perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette culture de « je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie », la culture très individuelle. Et je crois qu'il y a une belle occasion pour l'Église de Jésus-Christ de montrer la différence en obéissant à ce commandement de nous aimer les uns les autres. Beaucoup d'insistance au travers des paroles de Jésus, mais aussi des apôtres, dans les différentes épîtres, ce rappel où nous devons nous aimer les uns les autres. Je voudrais quand même lire avec vous dans Romains 13, verset 8, puisque nous avons parlé de l'accomplissement de la loi. Regardez Romains 13, verset 8. Il y a énormément de textes qui nous encouragent à vivre cette dimension de l'amour fraternel. Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. » Ce qui nous permet de rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que la loi, elle n'est pas abolie, mais elle est accomplie pleinement en Jésus-Christ. Celui qui vit dans la foi en Christ, il vit une vie qui est conforme à la loi de Dieu. Je sais que c'est un des combats les plus rudes parfois pour l'Église, et certainement aussi un domaine où le diable ne cesse de vouloir nous faire chuter dans la relation fraternelle. Parce que le diable sait que c'est le meilleur outil d'évangélisation. Quelqu'un a parlé dans sa prière tout à l'heure. Et nous devons prier le Seigneur de nous aider à grandir dans l'amour les uns pour les autres. Et nous devons être vigilants. Et vous savez, parfois dans cette relation où nous savons que le Seigneur nous demande, vous savez, quand on regarde, qu'on lit 1 Corinthiens 13, on se rend compte, voilà, tout ce package de patience que nous devons avoir les uns envers les autres, tout ce fruit de l'esprit qui est véritablement l'amour, Et il y a parfois, vous savez, des résolutions que nous prenons. Voilà, je vais essayer de faire. Et je voudrais que, en terminant sur cette pensée, que nous puissions aussi, dans ce domaine de nous aimer les uns les autres, comprendre bien sûr ce que nous avons à faire, à titre humain, personnel, individuel, mais aussi comment nous devons dépendre totalement de la grâce qui vient de Dieu. Parce que aimer les uns les autres, il s'agit ici de ne pas aimer seulement ceux qui nous sont aimables. Vous savez, on a des cercles d'amitié. Et il n'y a rien de mal à ça. Des gens avec qui on utilise bien ce terme, plus d'affinité qu'avec d'autres. Ce n'est pas avec nos propres forces que nous pourrons nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Et nous devons nous rappeler constamment cette parole de l'Écriture, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5, verset 5. C'est cela dépendre totalement de la grâce de Dieu, aussi pour aimer les frères, aimer les sœurs, développer au milieu de nous cet amour fraternel. Ça exige de notre part, bien sûr, une part à faire. Mais toujours, constamment, en réalisant que même les meilleures résolutions, même la meilleure autodiscipline ne pourra jamais nous permettre de vivre véritablement l'amour fraternel qui ébranlera non seulement nos vies, mais le monde qui nous entoure à ceci, a dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et je voudrais vous laisser cette pensée. C'est que ça peut être un peu particulier de le dire comme ça, mais je crois que nous devons aussi, pour grandir dans l'amour fraternel, nous devons aimer par la foi. Et j'ai pris cette image, vous savez, de Pierre lorsqu'il a, on peut le dire comme ça, cette audace de vouloir marcher sur l'eau. Lorsque Jésus est venu, qu'il s'est approché, qu'il marchait sur les eaux. Vous savez, Pierre, il a envie d'aller marcher comme le Seigneur, et je crois dans la dimension de cet amour, nous aussi, nous avons peut-être ce souhait de marcher comme le Seigneur a marché. Dans Jean chapitre 13, verset 1, il dit qu'il est écrit qu'il a mis le comble à son amour. Il y a un exemple extraordinaire, et voilà, peut-être qu'il n'y a pas de chemin qui sont clairs devant nous, peut-être que les vents sont contraires, peut-être que voilà, ça paraît compliqué, surnaturel peut-être, dans certaines situations, de vivre l'amour fraternel. Alors on peut prendre peut-être l'exemple de Pierre. Vous savez, ce qu'il avait besoin, Pierre, avant d'enjamber la barque, il avait besoin d'une parole précise du Seigneur. Il est écrit ceci, « Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Il avait cet ordre du Seigneur, donne un ordre. Et je crois que nous aussi, nous avons un ordre du Seigneur, un commandement. Aimez-vous les uns les autres. On le connaît, il est pour nous. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et nous pouvons nous saisir de la parole de Dieu pour faire cet acte de foi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, aimer peut-être aussi par la foi. Faire cet acte de foi, d'enjamber la barque. C'est vrai qu'il y a des situations, eh bien peut-être difficiles, où nous avons parfois à faire le premier pas. C'est pas toujours évident dans certaines situations complexes, tendues, différentes situations qui sont parfois même des situations inextricables. Et plutôt que de donner l'avantage à l'ennemi de nos âmes, prions le Seigneur de nous aider, de nous montrer, et peut-être en saisissant ce commandement du Seigneur, comme Pierre l'a fait. Pierre, ce qu'il a trouvé, il a trouvé quelque chose de plus solide finalement que n'importe quelle route qu'il aurait pu y avoir. C'est la parole de Christ. Et nous aussi, nous l'avons cette parole. Nous l'avons cet ordre du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. C'est par la foi que nous pouvons marcher de manière surnaturelle sur ce chemin de l'amour, malgré parfois les vents contraires qui pourraient nous faire douter et après nous faire enfoncer. Mais heureusement, le Seigneur Jésus est toujours là pour nous saisir par la main, si toutefois nous crions à lui. Surtout que dans cette affaire, si, dans cette histoire, je vous donne le verset Matthieu 14, 28, que je vous ai cité. Surtout que dans cette affaire, Jésus n'est pas que le modèle de cet amour fort. Il n'est pas que le modèle pour nous, pour nos vies. Il est aussi la source de l'amour. Et quand il est en nous, quand il est dans notre vie, non seulement il nous a montré le chemin, mais c'est lui qui agit au plus profond de nous. Cet amour qu'il a reçu de Dieu, il le communique et nous le vivons ensemble. C'est pas grave, je veux quand même lire ce verset avec vous. Jean 17, verset 26. On a encore trois versets à lire. Jean 17, 26. Jean 17. Comme ça, je termine un peu ce thème. Et bon, c'est un thème inépuisable, vous le comprenez. Dépendre de la grâce de Dieu, c'est toute notre vie. Mais je ne veux pas vous lasser, donc il faut quand même que je clôture un peu pour passer à d'autres sujets aussi. Dans Jean 17, verset 26, en tout cas, il y a cette prière du Seigneur Jésus qu'il prie dans ce sens. Alors, votre version, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Amen. Christ qui vit en nous et tout ce témoignage qui ressort de notre vie. Si Christ vit en moi par l'Esprit, alors son amour, on peut dire, imprègne toute la dimension de mon cœur. Je peux aimer comme il m'a aimé. Notre part, elle est indéniable. Et je ne veux pas la minimiser dans ce message. Il y a beaucoup de choses, je disais l'autre fois, que ça paraît complètement évident de devoir s'éloigner du mal. Il y a des choses, je veux dire, ça serait complètement absurde de vouloir dépendre de l'amour de Dieu et... Par maladresse, il y a des comportements quand même qui sont évidents que nous devons totalement éviter et qui sont tout à fait nuisibles dans nos relations les uns avec les autres. Notre part est indéniable, mais nous pouvons faire agir notre foi. Dépendre de la grâce de Dieu pour aimer, nous aurons peut-être à faire ce premier pas, jamber la barre, qu'importe. Mais en tout cas, le Seigneur veut nous combler. Il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Thessaloniciens, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous portons. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. Juste une petite parenthèse, c'est que parfois on comprend mal l'amour fraternel les uns avec les autres qui paraît un peu exclusif, vous savez, à l'enceinte de l'Église. Et puis l'amour de notre prochain et l'amour que nous avons dans le monde. Mais ne vous tracassez pas pour cette dimension. Je crois que plus l'amour les uns pour les autres grandit au milieu de nous, plus nous, plus nous nous appliquons à grandir dans cet amour, plus je peux vous assurer que l'amour pour notre prochain grandira et sera au bénéfice non seulement du peuple de Dieu, mais de tous ceux qui vivent autour de nous. Je veux conclure ce message. Dans Jacques, au chapitre 1er, verset 17, Jacques, chapitre 1er, verset 17, nous rappelait combien il est heureux, celui ou celle, qui dépend dans sa vie, chaque jour, comme le faisait David, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quels que soient les événements, les situations, je veux apprendre à dépendre de lui, dans les bons, dans les mauvais jours. » Jacques, chapitre 1er, verset 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Ma grâce, elle dure toute la vie. » Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Et c'est promis, le dernier verset, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 14. Je vais lire ma version. Moi, je lis la version Semeur, mais je pense que vous allez arriver à suivre. On est... Jean, chapitre 1, verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Verset 16, il est écrit ceci, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Dans ma version, il est écrit, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. » Alléluia. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre, que son nom soit béni. Amen. Prions-le ensemble. Éternel, notre Seigneur, combien nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons réaliser que, après toutes ces générations qui nous ont précédés, nous sommes vraiment chanceux d'avoir ta parole entre nos mains. Nous l'avons traduite dans plusieurs versions. Merci de tout notre cœur. La révélation est une révélation excellente qui est entre nos mains. Mais nous savons que parfois l'ennemi essaye de soit de nous enlever, soit de nous faire comprendre différemment. Et nous voulons te prier ce soir ensemble que ton esprit soit vraiment à l'œuvre dans chacun de nos cœurs, afin que nous puissions non seulement interpréter correctement les Écritures, mais surtout que nous puissions être les uns et les autres, que nous puissions avoir une vie, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure, fondée véritablement sur le roc. Seigneur, ce que nous souhaitons pour chacun d'entre nous, ce que nous te demandons, Seigneur, par ta grâce et par ta bonté, c'est que nous puissions comprendre la part qui est la nôtre dans tout ce que nous avons à faire. Oui, il y a des choses que tu ne feras pas à notre place, mais aussi que nous puissions apprendre à dépendre de toi, à ne pas empiéter, Seigneur, dans le domaine qui t'est réservé. Seigneur, tu as tout accompli. Tu l'as rappelé encore plusieurs fois ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à rester dans cette humilité, à réaliser combien nous sommes faibles sans toi, afin que nous puissions dépendre totalement de la force qui vient de toi. Seigneur, merci parce que il y a cette semence encore ce soir dans nos cœurs. Nous te prions qu'elle porte du fruit à la gloire de ton nom. Te prions comme nous l'avons partagé, que cet amour les uns pour les autres augmente au milieu de ton peuple, afin que les membres de nos familles, afin que tous ceux qui nous voient vivre, Éternel, puissent être bouleversés, puissent attester véritablement que ce n'est pas de l'humain cela, mais c'est le doigt de Dieu qui agit. Seigneur, merci parce que nous te présentons toute cette ville de Toulouse, toutes ces âmes qui sont éloignées de toi. Nous sommes dans la paix, dans la joie et dans le bonheur, et combien en ce moment sont dans la détresse, dans la misère. Seigneur, nous te présentons toutes ces âmes. Sers-toi de nous comme tu veux. Sers-toi de ton Église comme tu veux, Seigneur, afin qu'une multitude, tant qu'il fait jour, puisse te connaître et qu'elle puisse, Seigneur, à leur tour, témoigner de leur foi vivante en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.